commissioni, possiate un po' di sympathie. Allora écoutez, voilà un sujet, l'obésité, biologie et société. Au départ, j'ai eu une consigne, Alain Boudet m'a dit, ne nous embête pas avec la science dure immédiatement. Donc j'ai dit, je vais réfléchir obésité et société. Puis vous avez une chance extraordinaire, j'ai un conflit d'intérêt majeur pour faire ce type de conférence. Vous l'avez compris, j'ai un index de masse corporelle de 32. Ça veut dire que je suis obèse, alors qu'à la télé, en général, c'est toujours les gens maigres qui vous parlent des obèses. Non, c'est souvent les incompétents pour parler de l'obésité. Ils ne savent pas ce que c'est que l'obésité. Donc voilà, alors écoutez, l'obésité, ce n'est pas une définition facile. La première définition, si vous voulez, c'est un excès de masse grasse qui entraîne des conséquences néfastes pour la santé. Il faut savoir que tous les obèses ne sont pas nécessairement malades et ont peut-être obèse les trois quarts de son existence sans avoir un problème de santé majeur. Par contre, assez souvent, on a des problèmes qui peuvent arriver plus ou moins différés. Grand problème de société actuelle, bien sûr, quand on est obèse très jeune, les ennuis arrivent bien sûr beaucoup plus tôt. Donc, un excès de masse grasse, eh bien, écoutez, voilà, là, il y a un bel obèse, et puis vous voyez que la masse grasse, donc, on a une masse grasse sous-cutanée avec péricardiaque dans toutes les parties, et il y a une masse grasse abdominale sur laquelle je reviendrai, parce que celle-là, elle est très importante. Donc, on a l'obésité, c'est l'expansion du tissu adipeux blanc. Et hélas, pour nous, les hommes, c'est la disparition et la régression totale d'un tissu adipeux qui est un autre tissu tout à fait intéressant. C'est le tissu qui dissipe de l'énergie, qui permet le réchauffement des hivernants, etc. Le fameux tissu adipeux blanc. Donc j'ai vécu des périodes. On n'y croyait pas, on y recroit. Donc ça sera assez intéressant. C'est-à-dire que ce tissu adipeux blanc, c'est un tissu non plus stockeur d'énergie comme le tissu adipeux blanc, c'est un tissu dissipateur d'énergie. Le rêve. Hein, ça nous permet. Alors ce tissu adipeux blanc, bien les enfants à la naissance et les bébés ont le tissu adipeux blanc, ça on le sait. Ça leur permet de se réchauffer et probablement ça permet au bébé de survivre. Vous savez, de temps en temps, vous avez dans les faits divers un bébé qui a été abandonné dans une poubelle et un jour ou deux jours après, on le retrouve, il est vivant. Merci au tissu adipeux blanc qui a maintenu sa température corporelle. Alors l'homme, il lui reste encore un peu le tissu adipeux blanc. Quand il est jeune, vous voyez où il est localisé, le tissu adipeux blanc. Et ce tissu adipeux blanc, voilà ici, c'est de l'imagerie, donc où on essaie d'identifier le fonctionnement du tissu adipeux blanc. Vous voyez que quand on est au chaud, chez l'homme, c'est pas fantastique. Il n'y a pas une belle activité du tissu adipeux blanc. Mais si on lui fait un petit coup de froid, on arrive et on active le tissu adipeux blanc. C'est le phénomène qui se produit tous les jours chez les rongeurs, chez pas mal de petits mammifères qui sont très équipés en tissu adipeux blanc. Alors, maintenant, la définition de l'obésité, je vais passer vite là parce que vous savez tout. Hein, la définition sur les classifications de niveau de corpulence, c'est l'index de masse corporelle. C'est le poids en kilo divisé par la taille en mètres élevée au carré. On dit un individu de 80 kg et d'un mètre 80, il a un index de masse corporelle 24,7. Parfait, très bien. Et vous voyez qu'en réalité, dans l'index de masse corporelle, va permettre une classification grossière de l'obésité, puisque vous voyez qu'on définit donc l'obésité modérée entre 30 et 35, l'obésité sévère et l'obésité massive. Mais cet index de masse corporelle ne renseigne pas parfaitement sur la distribution de la masse grasse. Pourquoi ? Vous voyez ces deux individus, ils ont un index de masse corporelle de 33, 1m70, 95 kg. Hein, ça, c'est des rugbymen et du stade. Vous avez vu, hein, ils ont donc une masse musculaire énorme. Et donc, autrement dit, bien sûr, il y a une différence. Cet individu-là, il est obèse, mais on ne dit jamais qu'il est obèse. Donc, il y a un problème, l'index de masse corporelle n'est pas un très très bon indicateur, justement parce qu'il intègre la masse musculaire. Donc, là, les expérimentateurs sont allés à la recherche, si vous voulez, de systèmes pour définir. Alors, une définition qui nous est d'abord arrivée des États-Unis, parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, un des gros problèmes de l'obésité, c'est de développer de l'obésité dans la cavité abdominale, de développer ce qu'on appelle des obésités viscérales sur lesquelles nous allons revenir, bien on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui est important, c'est le tour de taille. Le tour de taille est un très bon index de l'obésité. Quand vous dépassez 102 pour les hommes ou 88 pour les femmes, ça c'est la norme américaine, eh bien vous êtes dans une zone qui est où vous êtes susceptible d'avoir des petits problèmes qui vont vous amener avec votre obésité, c'est-à-dire les pathologies associées à l'obésité.
En Europe, pour faire bien, parce qu'on a dit les Américains vont d'accord, mais en Europe, on a serré les boulons très sérieusement, puisqu'en Europe, le seuil, si vous voulez, à partir duquel on dit qu'il y a du risque à être obèse, c'est 94 pour l'homme et 80 pour les femmes. Donc vous voyez, c'est assez sévère. Alors bien sûr, pour les chercheurs après, ou en recherche médicale, on va utiliser les tomographies pour étudier la répartition de la masse grasse, si vous voulez. Vous avez une tomographie ici sur un individu normal, vous voyez, vous avez ici la vertèbre, vous avez la masse grasse ici, la graisse sous-cutanée, et vous voyez ici un obèse, donc bien sûr le taux de taille est bien augmenté, ça ne vous surprend pas. Taux de taille préaugmenté, extension de la masse cutanée, mais vous voyez ici, on a toute cette partie-là qui est de la graisse viscérale, la graisse qui se développe dans la cavité intra-abdominale. Et alors, pas de chance, parce que celle-là, elle n'est pas très très sympathique, et voilà ce que l'on a, un petit dessin récapitulatif, voilà la fameuse graisse viscérale, donc qui baigne, c'est la graisse qui embête très sérieusement les chirurgiens de temps en temps, parce que vous avez des organes qui peuvent être noyés dans cette masse grasse, donc ça c'est un problème, et vous avez ici la graisse sous-cutanée, et cette graisse viscérale, bien sûr, elle vous fait prendre du tour de graisse, vous comprenez les mains, vous avez le petit schéma ici, donc l'expansion de la graisse viscérale intra-abdominale, et en plus, et les hommes le savent encore mieux que les femmes, il y a une fâcheuse tendance avec l'âge qui avance chez pas mal de gens de prendre de la graisse sous-cutanée ici aussi. Donc on a une expansion, vous comprenez pourquoi. Un médecin, c'est très facile de faire un tour de taille à son patient, par contre il ne va pas faire une tomographie. Alors, chose extrêmement importante, des nombreuses études ont montré qu'en réalité, l'expansion des tissus adipeux viscéraux, donc entraînant une obésité viscérale, eh bien, nous amène vers l'hypertension, les dyslipidémies, l'insulinorésistance, le diabète de type 2 et les risques de maladies cardiovasculaires. C'est tout le panel qui est lié à l'obésité. Donc, vous voyez que c'est une chose extrêmement importante. Par contre, et ça c'est des travaux un peu plus récents, l'expansion des graisses glutéo-fémorales, c'est-à-dire la hanche et les cuisses, ça c'est plutôt un caractère sexuel féminin, eh bien, c'est protecteur vis-à-vis du risque métabolique et cardiovasculaire. Donc, mesdames, ne vous évertuez pas à vouloir éventuellement faire de l'ablation de ces dépôts. C'est un dépôt qui est tout à fait protecteur. Il ne va pas être associé à des pathologies cardiovasculaires. Donc, ça, c'est intéressant. Ça a été bien établi par de nombreuses études de ces dernières années. Et vous allez comprendre pourquoi. Et moi, j'ai compris pourquoi aussi après. Voilà donc l'introduction de mon affaire, et ça c'est des termes parfaitement clairs. Alors, un exemple, je ne vais pas faire bien sûr un panorama des pathologies cérébrales, mais un exemple avec une belle étude épidémiologique sur 27 000 hommes suivis pendant 13 ans, où on a regardé, si vous voulez, ici en abscisse, les index de masse corporelle, et on a intégré le risque relatif de diabète, d'or ajusté, bien sûr, dans les conditions statistiques ad hoc, et on a tenu compte du périmètre abdominal. Là, on est chez les Américains, on est déjà pas en dessous de 90, de 90 à 100 et au-dessus de 100. Et c'est très clair, quel que soit l'index de masse corporelle, l'augmentation du risque de diabète 2 est vraiment liée au taux de taille. Donc voilà quelque chose qui est très clair, et vous voyez, avec un index de masse corporelle dans au-delà de 30, eh bien on rentre bien sûr dans un risque de diabète qui est tout à fait notable, tout à fait important. Donc voilà, ça c'est une étude. Il y a eu de nombreuses études qui ont confirmé assez régulièrement ces conclusions. Alors maintenant, je vais passer rapidement parce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Vous savez qu'il y a en France une étude épidémiologique de l'évolution de l'obésité qui est réalisée, qui a démarré pendant les années 97, si vous voulez, qui se poursuit encore. La dernière étude a été faite en 2012. Bon, c'est une enquête qui est faite avec des chercheurs qui travaillent sur l'obésité, comme le professeur Arnaud Badevin à Paris, ou Marianne de Charles, qui est une épidémiologiste, et en relation avec une société, si vous voulez, avec Roche. Donc, ils contactent soit par voie postale 20 000 foyers, en gros 25 000 adultes, et on va demander aux individus interrogés, donc 18 ans et plus, donc, de préciser leur taille, le poids, ça vous donne immédiatement un index de masse corporelle, de donner le tour de taille, on leur donne les conseils pour savoir à quel endroit, hein, au niveau de l'ombilic, il faut prendre le tour de taille. Ensuite, on va s'informer sur les traitements éventuels qu'ils subissent, en particulier, bien sûr, les maladies autour de l'obésité, l'hypertension, les épidémies, c'est le cholestérol, le triglycéride, et il y avait le type 2. Et en fait, dans les dernières enquêtes, on a inclus la profession, le niveau d'éducation, la structure des revenus du ménage, la taille de l'agglomération et la région. Donc, OBP, c'est un peu enrichi de facteurs sociaux, et vous allez voir qu'ils ont eu une très bonne idée de se pencher sur ce problème-là. Donc, ensuite, eh bien, on va voir l'évolution. Hein. Premièrement, les hommes et les femmes. Eh bien, voyez, OBP 2012, vous pouvez aller le chercher sur Internet, hein. Il est accessible, hein, tout à fait ouvert sur Internet. Vous voyez le bilan OBP 2012 et on a tous les OBP d'avant, de 1997 à 2012. Là, vous voyez, c'est clair. Hein, que ce soit en total, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, il y a une progression de l'obésité en France avec une légère différence et une plus grande progression chez les femmes que chez les hommes. Donc ça progresse, ça continue à progresser irrémédiablement au fil du temps, donc on ne peut pas s'échapper du système. Après on a regardé un peu les répartitions de niveau d'index de masse corporelle à la tranche d'âge, et bien vous voyez c'est clair, hein, les tranches d'âge vous les avez ici, 18 à 24 ans, 65 ans et plus, vous n'êtes pas très surpris bien sûr, mais c'est la constatation d'une étude épidémiologique. Bon, le normal, mais on a sa tendance un peu à dégringoler, et bien sûr, le surpoids, ça apparaît quand même un peu avec l'âge. Beaucoup d'entre nous sommes confrontés à l'augmentation du surpoids avec l'âge, ou l'apparition d'une obésité avec l'âge. Donc, l'âge est un paramètre, disons, hein, parce que bien sûr, hein, il y a des reprofilages d'activité, en même temps, de temps en temps, on a tendance à faire un peu plus de bonne chère, enfin, bref, il y a plein de choses qu'on pourrait analyser. Alors, une chose importante aussi, c'est la répartition de la population adulte obèse avec le niveau d'instruction. Eh bien, vous voyez, c'est clair. Niveau primaire, trois fois plus d'obèse que chez les gens de niveau supérieur. Donc, il y a un lien entre un bas niveau d'instruction et le risque d'avoir un niveau d'obésité plus important. Et parallèle à ceci, bien sûr, quand on regarde les problèmes économiques, et bien sûr, là c'est très spectaculaire, regardez ici les revenus des gens, et immédiatement il est clair, les bas revenus sont ceux qui sont confrontés le plus au risque de développement d'une obésité. Ce n'est pas rien, c'est trois fois plus que les hauts revenus. Donc vous comprenez qu'ici, hein, on est dans de la société, du social, de la sociologie, on n'est pas spécialement dans du biologique. Donc autrement dit, vous comprenez bien que pour aborder les problèmes d'obésité, les sociologues ont leur mot à dire, à étudier ce qui se passe. Donc vous voyez, ça c'est très spectaculaire. Et donc ça c'est une règle, quel que soit le pays, aux États-Unis c'est la même histoire, etc. Il y a des légères modulations selon les ethnies. Mais globalement, c'est un mouvement très général. Donc voilà ce que nous dit l'épidémiologie. Et donc, bien faire attention, le niveau culturel et les revenus. Bien sûr, quand on a de très faibles revenus, vous comprenez bien qu'on a la fâcheuse tendance à acheter des aliments qui ne sont pas les plus brillants, qui sont les moins chers et qui sont souvent les aliments de plus mauvaise qualité. Alors là, il faut savoir, c'est une étude tout à fait récente que j'ai piochée il y a 8 jours, eh bien, regardez l'évolution de l'obésité, 120 pays impliqués là-dedans, de 1980 à 2013, on a regardé l'évolution du surpoids et de l'obésité, ou de l'obésité toute seule, dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. En rouge, les femmes, en bleu, les hommes. Vous voyez que quel que soit le pays, donc je vous dis 100 pays ou 120, c'est presque l'ONU, eh bien voilà, hein, le développement de l'obésité avec l'âge, c'est très clair, dans les pays développés, et les pays en voie de développement poursuivent cette stigmatique que l'on constate chez les pays développés et vont rattraper très vite le retard dans ce domaine-là, du moins, hein, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des choses pour eux, mais bon, vous savez bien, on ne tire jamais d'enseignement ou de bons enseignements de ce que l'on fait. Alors, la complexité de l'obésité, si vous voulez, je voulais vous parler de tous les problèmes.
Il y a des causes biologiques, génétiques, épigénétiques, nutritionnelles, environnementales et psychosociales. C'est l'enfer. Vous avez des tas d'experts dans tous les divers champs d'approche de l'obésité. Et un bon médecin doit avoir des notions psychosociales importantes quand il aborde son patient, il faut savoir où il vit, etc. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut voir, donc vous comprendrez bien qu'il est impossible d'aborder tous les aspects, mais simplement, je vous fais donc une évocation de l'obésité insérée dans la société. Il y a les facteurs individuels, là on aura l'occasion de reparler, les comportements alimentaires, les connaissances, la génétique, la sédentarité, là je le sais. Bon, il ne faut pas oublier que les femmes, normalement, physiologiquement, elles ont une masse grasse plus importante que les hommes. Ça c'est constitutif, donc ce n'est pas pathologique ni rien, mais la femme a une masse grasse plus importante que l'homme. Donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, bien sûr, il y a l'environnement. Et là, on voit se brancher tout autour de ça des choses que vous connaissez bien, donc j'y passe très vite. Mais l'activité, le statut pondéral des parents, on y reviendra avec la génétique, les modes de consommation qui évoluent de façon spectaculaire, le contrôle parental plus ou moins en déshérence dans pas mal d'endroits, les télévisions, l'écran, le conditionnement. Donc tout ça, il faut y penser. Hein, selon votre risque de devenir obèse, eh bien, selon l'environnement dans lequel vous allez vous épanouir, ça va amener du risque. Et autour de ça, il y a la société. Une société, eh bien, bien sûr, on a tous les aspects catastrophiques de la société à laquelle on est confronté actuellement. C'est-à-dire, il y a le travail, l'oisiveté, le chômage, hein, tous les reportages que vous avez vus dans le nord de la France, dans les zones qui ont de très gros problèmes économiques, eh bien, oui. Hein, beaucoup de chômage, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup plus d'obèses dans le nord de la France que dans le sud de la France. Ensuite, bien sûr, il y a quand même des gens, moi, qui m'intéressent un peu, c'est les gens de l'industrie agroalimentaire qui ne font pas des efforts extraordinaires pour essayer éventuellement de nous offrir des aliments pertinents. Ça, c'est une chose. Bon, l'urbanisation et l'insécurité, bon, ça, c'est la chose extraordinaire. On ne voit plus l'enfant dehors. Vous avez remarqué, l'enfant, on le prend à l'école, on le porte à l'école. L'enfant ne se promène jamais. Moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne, à Villejoux. Je fais des randonnées 3 fois par semaine. Je n'ai jamais vu un enfant. Jamais. Et ne vous en faites pas, ils sont tous partis à la maison devant les écrans télé ou autre. Donc, autrement dit, c'est parce que la sécurité, la fameuse insécurité, qui est un truc extraordinaire. Alors, ensuite, on a des facteurs comme le vagabondage alimentaire, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ceci, mais ça vous pose tout le niveau de complexité. Et le biologiste, quand il regarde ça, il est désemparé. Et le biologiste, il se dit, oh là là, qu'est-ce que je fais, moi, biologiste, et là, la petite affaire, ce dont je vais vous parler spécifiquement, à quoi je sers, là, hein, par rapport à l'ensemble de cet environnement et tous les risques qui vont venir autour de l'individu. Mais on va essayer quand même de ne pas se désoler, mais de réfléchir. L'obésité, finalement, on est confronté à une mondialisation. On nous arrose le terrain avec la mondialisation par-ci, la mondialisation par-là. Bien sûr, c'est bénéfique. Je pense que c'est vrai que c'est très bénéfique pour les banquiers. Et bon, le problème, les obèses aussi sont confrontés. Moi, je suis allé voir à des congrès de l'obésité à peu près tout autour de la planète. Et on les voit arriver, les obèses. Le Mexique, c'est fantastique, les obèses au Mexique. Les Chinois vont progresser très sérieusement. Parce que les petits Chinois, il y a déjà beaucoup de petits Bouddhas parmi les petits Chinois. Normal, on les protège, les enfants, etc. Donc on est en mondialisation de l'obésité. Cette mondialisation, on le comprend. Heureusement, il y a une augmentation des revenus déjà. Ça, c'est pas nécessairement néfaste. Il y a bien sûr un développement économique plus ou moins important selon les pays quand même, ne l'oublions pas. Et il y a une urbanisation extraordinaire. Sur la planète, vous savez bien, on a une très grande partie de la population de la planète qui est urbanisée ou qui s'urbanise. Donc, autrement dit, voilà le problème. Et associé à ceci, eh bien, il y a des choses importantes. Il y a la sécurité des apports alimentaires. Augmentation de la sécurité des apports, on ne va pas s'en chercher. Ça peut être une bonne chose, mais ça va dépendre de la qualité des apports. Alors, bien sûr, le problème, si vous avez des aliments sucrés, gras, bras pris, du junk food, comme on dit, hein, ça ne va pas être extraordinaire. Vous avez des médias qui vous aiment, qui vous poussent, qui vous font ce qu'on appelle dans ma jeunesse la réclame pour toutes les cochonneries planétaires. Vous avez les changements des habitudes alimentaires avec une alimentation souvent hors domicile, avec des repas perturbés, avec de l'alimentation dans d'assez mauvaise qualité.
Vous avez vu, mais avant, on mangeait dans les petits restaurants à Toulouse, maintenant, on a une fâche salade à la kebabisation des restaurants à Toulouse. Bah, les kebabs, c'est pas quand même des gastronomes. Hein. Alors ensuite, vous avez des choses qui arrivent, qui sont la pénibilité du travail. Ça, elle est diminuée, on ne va pas s'en chercher. Et je crois que c'est une très bonne chose quand même. La motorisation est en oui. Alors ça revient le vélo, vous voyez, on offre des défis cyclables. Donc on a dit l'activité physique, la motorisation du plus ça, et la mécanisation, mais bon, il faut revenir au vélo. Les Chinois, ils ont abandonné, on voit de moins en moins de vélos en Chine. On fait des périphériques tous les 5 ans à Pékin, ben on voit plus cyclistes. Hein. Alors les opportunités d'activité physique, bien c'est tout pareil, hein, on ne prend pas le vélo, le transport et éventuellement, hein, le transport, vous avez vu, les enfants qui ont pu les déposer dans la cour de l'école, c'est le mieux. Hein. Donc, autrement dit, en effet, il ne marche jamais, etc. Ça, c'est un problème. Et enfin, les loisirs sédentaires et contemplatifs, n'en parlons pas. Vous avez tous des enfants maintenant qui sont grands pour pas mal d'entre vous, et vous avez des petits-enfants, et vous avez vu l'intoxication à l'immobilisme si les parents ne sont pas vigilants. Donc, autrement dit, soyons optimistes, mais ça peut être plus dur. Alors maintenant, on va essayer, je vais vous montrer tous les points. On pourrait aborder l'obésité par de nombreux points. Ah, je ne vais pas faire ça, c'est un cours sur l'obésité de 25 heures, donc il faut faire attention, il faut me libérer. Donc là, je vais vous faire les schémas importants. Dans l'obésité, vous savez qu'il y a d'abord, bah, c'est la prise alimentaire, hein, l'ingestion. Ça compte quand même, l'ingestion. Et dans l'ingestion, si vous voulez, c'est quelque chose de fantastique et d'extrêmement régulé. C'est-à-dire que déjà, on a les organes des sens qui vont nous informer parfaitement sur ce que l'on mange, etc. Et là, c'est des relations étroites avec notre cerveau. Alors, notre cerveau, il a deux circuits, là. Hein? Et donc, ça, c'est déjà extrêmement important. On peut faire, il y a de très, très beaux travaux sur le comportement alimentaire, sur la régulation de la satiété, tout ça. Moi, je ne vous en parlerai pas là, mais c'est de très, très beaux livres. Ça commence par là, quand même. Hein? Donc, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on a le nutriment. Donc, on va passer de l'aliment. Une fois qu'on a la digestion, on a le nutriment, c'est-à-dire on va passer le glucose, les acides gras, les protéines qui vont arriver, hein, qui vont passer dans l'estomac et le tube digestif. Et là, le tube digestif, c'est un système extraordinaire, négligé pendant de très nombreuses années. En réalité, c'est un système de détection extrêmement précis du devenir de nos nutriments. Et comment se fait la messagerie? La messagerie se fait de nature nerveuse et elle se fait de nature hormonale. Dans le tube digestif, vous avez tout un tas d'hormones produites par l'estomac, l'intestin, qui vont déjà passer dans la circulation et aller informer des centres d'orchestration au niveau du système nerveux central. Donc ça, c'est extraordinaire. Une richesse incroyable au niveau du tube digestif. Deuxième chose intéressante, au niveau du tube digestif, j'en dirai un petit mot à la fin, c'est le grand baume actuel, la flore intestinale. On se moquait, la flore intestinale, vous connaissez, hein, ultra levure après les antibiotiques. Hein, c'était à peu près la grande science de la flore intestinale que l'on nous vendait pendant longtemps. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'actuellement, les moyens d'investigation sont tels qu'on a découvert que cette flore intestinale, il y a 10 fois plus de cellules dans la flore intestinale que dans notre organisme entier. Et il y a en gros 600 espèces différentes de bactéries et choses diverses dans la flore intestinale. Donc un délire extraordinaire. Et bien sûr, ce qui est très intéressant, on a découvert voilà, que les obèses, par exemple, ben, ils n'ont pas la même flore intestinale que les non-obèses. Donc vous m'avez compris, là, tout le monde se précipite pour essayer de nous arranger les affaires de la flore intestinale. Donc, voyez, moi, je pense, le tube digestif, système de détection extraordinaire, et on pourrait en parler pas mal longtemps, donc, avec des hormones, avec des glucodétecteurs, hein, donc, tout ça se règle au début. Ça va faire les informations vers la zone de l'hypothalamus du cerveau, et ça va aussi informer la sécrétion d'insuline, puisque vous savez bien que le pancréas, hein, il faut qu'il réponde bien. Et voilà les systèmes anticipatoires, rapides, qui ne passent pas nécessairement par le cerveau pour stimuler aussi le pancréas. Très belle biologie, très belle physiologie, complexe. Hein, bon, je ne parlerai pas de la régulation de la prise alimentaire. 23 ou 24 protéines peptides différentes pour réguler la prise alimentaire. Donc, On ne rentrera pas dans les détails. Mais vous voyez que c'est un univers absolument fantastique. Et donc, la régulation de la prise alimentaire et la régulation de la satiété, c'est un très grand domaine et ça joue un rôle dans nos problèmes d'obésité. Alors ensuite, bien sûr, une fois que le système nerveux central et l'hypothalamus avaient des informations, eh bien alors lui, il va réorienter les possibilités. Alors selon la situation, il va aussi, vous savez qu'il y a une régulation centrale, donc une régulation périphérique et une régulation centrale de la sécrétion de suie, ça c'est extrêmement important. Mais vous savez bien que le système nerveux central, via le système nerveux sympathique, le système nerveux autonome, donc le vague ou l'adrénaline ou l'adrénaline, va pouvoir contrôler les fonctions tissulaires au niveau du foie, au niveau du muscle, et bien sûr, va contrôler le stockage et la mobilisation au niveau du tissu. Donc voilà les schémas. Donc vous voyez qu'on peut rentrer dans l'obésité de diverses façons, mais il faut avoir la boucle fonctionnelle, si vous voulez, qui peut nous intéresser. Alors, on y reviendra un peu tout à l'heure. Alors, maintenant, bon, obésité. Obésité, bon, vous avez compris, moi je suis là pour en parler en étant confronté, en ayant justement réfléchi au problème de l'obésité et lutter la moitié de mon existence contre l'obésité. C'est qu'une maladie chronique évolutive à différents stades qui atteint très souvent un niveau d'irréversibilité. Voilà le problème. Autrement dit, l'installation et l'aggravation. L'installation, ben ça c'est l'histoire d'une personne, vous savez bien, on a des oscillations. Bien sûr, il y a tout un tas. Il y a une nutrition qui n'est pas toujours bien ajustée. Vous savez qu'il y a des périodes d'inactivité. Il y a bien sûr les grossesses. C'est normal et c'est physiologique. La grossesse est un risque important de prendre du poids, mais bon. Dans les bonnes conditions, en général, la prise de poids est liquidée en un an et demi au pire, mais vous savez bien que ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est un facteur de risque. Il y a des traitements antidépresseurs qui sont des traitements qui vous font prendre du poids. Les gens qui ont été confrontés le savent. Et en fait, le plus beau système pour prendre du poids, ce sont les régimes anarchiques. Alors là, on est tranquille. Il y a 15 à 18 régimes anarchiques différents. Et la certitude pour prendre du poids, c'est de faire un régime. Vous savez bien, vous écoutez des enquêtes, etc. Tous les gens qui consultent pour des prises de poids, ils ont fait des régimes. Et ils n'en ont pas fait que. Et vous verrez comment on peut concevoir pourquoi le régime a des effets délétères. Donc ça, c'est très important. Donc, le problème, vous le voyez ici, on s'est laissé aller. On arrive, allez, un gars à la quarantaine, on est arrivé ici, on est en surpoids. On change de femme, allez, tiens. Et à ce moment-là, vous savez bien qu'il y en a, ils changent de femme, ils sont passionnés immédiatement, ils vont faire le régime, ils veulent revenir dans le costume du mariage là-bas, et ils vont faire des régimes extrêmement sévères. Donc, les régimes sévères, si vous le faites très sévère, vous perdez du poids. Il y a un individu qui s'appelle Ducan, on ne va pas tirer sur les ambulances, mais qui a fait sa fortune sur ça. Parce que nous, vous voulez faire des régimes extrêmement sévères. Et donc, les gens étaient contents, bien sûr. C'est sympa, du temps, parce qu'on perd du poids. Alors, le problème de la perte de poids, et ça c'est vrai, et il ne mentit pas, il vous faisait perdre du poids. Mais l'histoire n'est pas là, c'est pas de perdre. C'est de maintenir le niveau que l'on va atteindre, et pendant combien de temps. À 5 ans après une prise de poids, il n'y a que 5% des gens qui ont perdu du poids qui resteront à un niveau qu'ils ont choisi. 95% des autres auront repris le niveau initial de départ, et pour les plus malchanceux, ils auront au-delà du niveau initial. Donc vous voyez que c'est ce que j'appelle ici le rebond, le yo-yo, etc. Alors, pourquoi ça? Eh bien, il faut savoir que l'organisme qui s'est installé dans un confort ici, ce qu'on appelle la chronicisation, c'est plus l'équilibre. Il s'est développé physiologiquement un état physiologique d'équilibre. Vous allez faire du régime, c'est-à-dire que vous allez faire une agression vis-à-vis de ce bel état d'équilibre. Et dans l'organisme agressé, parce qu'on veut le faire sourire, il va développer tout un tas de systèmes de protection de façon à limiter les dégâts de perte de poids et surtout se venger immédiatement dès que vous allez lever le pied. Donc, ça, c'est intéressant, les mécanismes, donc, les contre-régulations, c'est très, très important. C'est des choses que les gens ne comprennent pas suffisamment quand ils engagent dans des régimes. Alors maintenant, je vais vous parler quand même un peu de biologie, je suis désolé, biologiste, physiologiste. J'ai commencé à travailler sur le tissu adipeux dans les années 70. Dans les années 70, le tissu adipeux n'était absolument pas à la mode. Je me souviens d'une réflexion foudroyante de mon patron. J'ai dit, moi, monsieur, il y avait un prix Nobel qui avait décrit la technique d'isolement des cellules graisseuses, Martin Rothbell. Et alors, je lui avais envoyé une lettre, vous savez, les jeunes enthousiastes, il m'avait envoyé une lettre de 3 pages en me donnant des conseils. Et donc, j'avais dit à mon patron, je vais étudier les cellules adipeuses. Il m'a dit, oui, Max, mais pas plus de 6 mois. Bon, j'y suis resté 40 ans. Donc, tout ça, c'est une leçon pour les patrons. Moi, ça m'a rendu prudent. Donc, autrement dit, on va essayer de voir ça. Dans les biologistes et les physiologistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis les années 70, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites parce que le tissu adipeux est devenu à la mode. Pourquoi? Eh bien, tout bêtement, parce qu'on s'est rendu compte, si vous voulez, qu'on avait cette épidémie d'obésité qui avait bien commencé déjà aux États-Unis, donc il fallait un peu réagir. Puis, bien sûr, les gens se sont rendus compte, les cardiologues se sont rendus compte que quand ils ont des gens qui avaient des problèmes cardiovasculaires, il n'y avait plus d'obèses, il y avait pas mal d'obèses. Les diabétologues aussi se sont rendus compte que parmi leurs patients, il y avait pas mal d'obèses. Donc, finalement, on a regardé les obèses d'une autre manière. C'est une évolution. Moi, je l'ai vécu avec les cardiologues de Toulousain. Les cardiologues de Toulousain, au départ, c'était des gens qui aimaient bien faire de l'intervention brillante sur les vaisseaux, etc. C'était moins passionnant d'essayer de faire de la prévention, de la prévention métabolique, des choses comme ça maintenant. Vous allez à Rangueil, vous avez vu, vous avez une prise en compte tout à fait intéressante de vos comportements, de votre poids, par les cardiologues, dans les choses ont évolué. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais vous parler de la dynamique de l'expansion de la masse grasse. On est tous concernés, mais pour nous, c'est trop tard. Quand est-ce qu'on se fait sa réserve de cellules graisseuses? C'est ça le problème. Et c'est surtout important pour les parents. Parce que vous allez voir qu'il y a des beaux travaux qui ont été faits là-dessus. Ensuite, je vous développerai un peu la prolifération et la différenciation et les processus de stockage. Là, j'y passerai un peu plus vite. Alors, première des choses phénoménales quand on a commencé à se pencher très sérieusement sur le tissu adipeux, on a découvert quand même que le tissu adipeux, ce n'est pas que les cellules graisseuses. Parce que pendant un certain temps, c'était ça. J'ai rencontré des gens qui croyaient que c'était un tissu inerte, qui n'était pas étriqué, qui avait fait. J'ai entendu beaucoup d'inepties au démarrage de ma carrière, parce que, c'était négligé. On le trouvait dans les poubelles à l'hôpital, donc ce n'était pas passionnant quand même pour la recherche. En réalité, le tissu adipeux, c'est un tissu dans lequel il y a des cellules souches progénitrices qui vont refaire des adipocytes. Si ce n'est qu'on a découvert que ces cellules souches, elles ont bien d'autres propriétés en chirurgie réparatrice. Donc, vous voyez, ça change tout. On a découvert, bien sûr, qu'il y a un tissu adipeux, il y a un réseau vasculaire extrêmement important, parce que pour développer sa masse grasse, il faut fabriquer des adipocytes et il faut fabriquer la vascularisation. C'est comme pour une tumeur. Et enfin, on s'est rendu compte que le système immunitaire, et bien le système immunitaire joue encore le non négligeable aussi, en particulier chez les obèses. Il y a une infiltration du tissu adipeux des obèses par des cellules immunitaires, par des macrophages, par des lymphocytes T, et on a l'installation d'un état d'inflammation chronique dans le tissu adipeux des obèses. Et cette inflammation chronique a des effets délétères sur le fonctionnement des adipocytes et éventuellement des autres. Donc, vous voyez que c'est tout à fait important. Et bien sûr, ce tissu adipeux, soyons sérieux, quoi. Il est irrigué, et bien sûr, il reçoit plein de messages de l'extérieur en dehors des nutriments. Il y a tout un tas d'hormones qui viennent du muscle et des autres hormones qui vont avoir des effets sur le tissu adipeux. Le tissu adipeux, je vous l'ai dit, il est énervé par le système nerveux autonome. Il y a même des fibres, des éléments de fibres sensitives. On ne sait pas encore à quoi ils servent dans le tissu adipeux, mais il y a des découvertes à faire. Et chose extrêmement importante dans le tissu adipeux, on avait tendance à le voir comme un système de stockage, je stocke du gras et je libère du gras, eh bien c'est les capacités sécrétoires du tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est une machine à sécréter les hormones. Je ne vais pas vous le détailler parce que c'est encore le 3 heures, mais on en dira quelques mots quand même. L'adipocyte est une cellule qui sécrète tout un tas d'hormones, dont certaines sont tout à fait fantastiques au point de vue. Donc, vous voyez qu'on va dans une affaire qui s'est sérieusement compliquée, et donc je vais essayer de vous faire vivre ça, mais sans trop vous embêter quand même. Premièrement, le gras, c'est simple. Pour faire du gras, il y a deux mots clés. Il faut que ça prolifère, donc il faut que l'on ait une multiplication des précurseurs avec le citer, et il faut que ça se remplisse. Donc, c'est l'hypertrophie. Donc, deux mots clés, hyperplasie, hypertrophie. L'hyperplasie, c'est l'apparition de nouvelles cellules. Donc, les nouvelles cellules adipeuses viennent d'un pool de cellules souches qui s'installent au cours du développement dans le tissu adipeux ou qui quittent la moelle osseuse pour venir coloniser le tissu adipeux plus tard. Donc, ça, c'est une chose intéressante. Ces cellules souches, elles vont s'engager dans des processus de différenciation qui ont été très étudiés. Il y a peut-être 2500 publications sur ces mécanismes. Donc là, ça c'est très connu. Hein? Ça va donner des prélipocytes et ça va donner la lipocyte mature. Chose essentielle, et ça traîne encore dans les anthologies savantes, genre Wikipédia, la lipocyte mature, je vous signale, dans le Wikipédia, il y a des gens qui ont écrit que ça prolifère. Donc vous voyez, Wikipédia, attention pour les inepties. Hein? Les adipocytes matures ne prolifèrent pas, ne se multiplient pas. Hein? Ce sont les cellules précurseurs qui se multiplient. Et ensuite, le stockage accru des graisses dans l'adipocyte, c'est l'hypertrophie des cellules existantes. Mais la fourchette d'hypertrophie est énorme. Un adipocyte peut voir son volume initial multiplié par 100, par 200. Donc imaginez un peu où on peut aller, et vous comprenez pourquoi, de temps en temps, dans des situations de dérèglement où on a des obésités, on ne sait pas du tout comment elles ont pu arriver. Hein, c'est énorme, les capacités d'hypertrophie d'un seul adipocyte. Alors maintenant, la partie du nombre, hein, c'est là où ça devient intéressant. Très belle étude publiée dans Nature il n'y a pas très longtemps. C'est un vieux copain suédois avec qui j'ai pas mal travaillé. Il s'est amusé, grâce à une technique dont je vous fais grâce parce qu'elle est complexe, il s'est amusé à compter le nombre d'adipocytes. Il avait une cohorte, il avait mis en place une cohorte de patients, vous voyez, il a couvert à peu près toute la vie des Suédois. Ça, ça a été son génie. Il a installé des cohortes de patients à suivre avant que tout le monde le fasse sur la planète. Donc, autrement dit, il a mis des techniques, il a quantifié, il a fait des compilations de ces résultats. Il a regardé, si vous voulez, le nombre d'adipocytes en milliards, hein, là, non, s'il vous plaît. Le nombre d'adipocytes dans les dépôts adipeux chez des groupes de patients obèses en stabilité pondérale et chez des groupes de patients maigres en stabilité pondérale. Ça, c'est important à voir. Regardez ce qui se passe en réalité. Le nombre d'adipocytes augmente pendant l'enfance et l'adolescence. Vous voyez ici, nettement. Hein? La courbe bleue, la courbe rouge. Et autrement dit, il y a des différences notables dans le nombre d'adipocytes quand on va arriver à 20 ans. Vous voyez qu'à 20 ans, ici, il y a des gens qui ont près de, hein, de 80 milliards de cellules, alors que celui-là n'en a que la moitié. Et toutes ces cellules, elles ont une option essentielle. Elles vont pouvoir gonfler. Ce qui veut dire qu'à 20 ans, on peut être mince, mais on peut être mince avec beaucoup de cellules qui n'ont pas de poids significatif à ce moment-là. Et après, on va développer l'obésité un peu plus tard. Donc voilà, tout le mal est fait très précocement. Donc là, des leçons essentielles, si vous voulez, bien sûr, pour les parents, mais hélas, les chercheurs, ça c'est descriptif, c'est sympathique, mais on ne connaît pas parfaitement le déterminisme de ces disparités. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, nutritionnels, etc. Ça fait l'objet de beaucoup de travail actuellement pour savoir, si vous comprenez bien, l'idéal, si on a quelqu'un qui a tendance à filer comme ceci, ben là, ce serait d'influencer cette cinétique. Hein? Parce que quand on est obèse, on a un renouvellement. Vous savez que toutes les cellules de notre organisme se renouvellent. Bon, l'adipocyte, ça fait un renouvellement fantastique. Hein? 10% par an, c'est très peu quand on réfléchit aux cellules sanguines, hein, aux cellules digestives, c'est dérisoire, 10% par an. Donc il y a un équilibre stable, si vous voulez, entre la mort de certaines cellules adipeuses et l'apparition de nouvelles, hein, le renouvellement. Manque de chance, quand vous êtes installé
le renouvellement de l'obèse, eh bien, il vous renouvelle votre état d'obèse. Et le renouvellement du maigre vous renouvelle votre état de maigre. Donc, pas piégé par le déterminisme précoce dans le renouvellement, eh oui, il renouvelle le tissu de l'obèse, oui, il renouvelle le tissu du maigre. Donc voilà le gros problème auquel on est confronté. Deuxième chose, vous allez me dire, oui, mais attention, là quand même, on va essayer de maigrir un peu. Bien sûr. Et les collègues ont fait de très belles études là. Ils ont pris, si vous voulez, des pertes de poids importantes. Ils ont pris des patients qui sont passés d'index de masse corporelle de 40 à 42 à 32. C'est gigantesque, c'est très important. Vous savez que c'est avec des interventions, des bypass gastriques ou des choses comme ça. Eh bien, ces gens-là n'ont perdu aucune cellule. On perd du poids, la perte du poids, elle est limitée à la réduction du volume des intestins. Et rien ne se passe, si vous voulez, à ce qui concerne. Donc, on dit, on est en danger, éventuellement, d'avoir les possibilités de retour. Dernière des choses, au moment où il publiait cette affaire-là, nous, on travaillait chez des patients obèses ici à Toulouse, chez des gens qui avaient des index de masse corporelle entre 40 et 55. Donc, eh bien, on a trouvé que ces gens avaient une tendance à avoir des cellules qui proliféraient plus que la normale. Donc, autrement dit, moi, et en discutant avec mon collègue, il y a probablement des possibilités d'échappement. Et il y a des individus, pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, qui échappent un peu et qui se continuent à fabriquer du gras sur le tas. Et il n'est pas exclu que ce phénomène puisse apparaître chez certains individus maigres. Vous savez, de temps en temps, on voit des maigres qui se mettent à prendre beaucoup de poids. On ne sait pas exactement, on n'a pas les déterminismes. Donc voilà, mais là, ce qu'il faut retenir essentiellement, attention, cette période-là, extrêmement importante. Donc, les parents, les pédiatres, tout le monde doit savoir, attention, l'obésité, on se l'installe précocement. Donc, le petit schéma de la situation, eh bien, vous voyez les précurseurs, donc, ils prolifèrent, ils ont un stade de prolifération, ici, et après, ils s'engagent dans la différenciation. Une fois qu'ils sont dans ce stade de la différenciation, on est dans des états irréversibles. Donc, ils ne peuvent que gonfler, dégonfler ou mourir. Donc, vous voyez qu'ici, on a ce que j'appellerais un recrutement normal, mais probablement, il y a des gens qui ont une prolifération accrue. Ce que vous expliquez qu'on a en fait des circuits de double de cellules. Donc, ça, il faut le comprendre. Quels sont les déterminants de cette prolifération accrue? Tout ça vient. Quelle est la nature du précurseur? Ce terme-là, je le mets. Nous, on y travaille depuis 5 ou 6 ans, là-bas, pour savoir c'est quoi le précurseur, etc. Et je peux vous dire que l'on souffre très sérieusement. Donc, il y a encore plein de travaux à faire, parce que, bien sûr, là, on arriverait à l'entrée, hein, au démarrage du problème. Et donc, ça, c'est une très belle recherche qui se fait. Donc, en même temps, vous savez que ces précurseurs et la gestion de ces précurseurs et de ces phénomènes prolifératifs, ici, bien, vous savez que maintenant, on a plein d'inquiétudes. Hein, il y a des acides gras oméga 6, il y a certains xénobiotiques, il y a certains agents pharmacologiques qui sont susceptibles de modifier la fonction de ces précurseurs et d'introduire du risque de développement de masse grasse. Donc, il y a de très grands débats, et c'est un domaine tout à fait excitant, mais il faut passer au large, on va aller plus loin. Alors, après le stockage, voilà, c'est simple. Pour faire du gras, pour fabriquer le triglycéride, je vous l'ai mis ici, le triglycéride, hein, c'est trois acides gras et un squelette carboné, donc qui vient du métabolisme du glucose. Pour faire du triglycéride, premièrement, il faut manger gras, il faut du gras au départ. Donc, votre tracteur digestif, vous savez, on digère les lipides sont emballés dans des sortes de lipoprotéines, donc ils sont restructurés en triglycéride, ils passent dans la circulation, ils peuvent devenir du poids. Ici, il y a une enzyme essentielle qui va être impliquée dans la dégradation des triglycérides qui sont véhiculés par les chylomicrons ou les VLDL. Donc, cette lipoprotéine lipase, c'est extraordinaire. Elle est fabriquée par l'adipocyte ou le muscle, donc l'adipocyte en ce qui nous concerne. Elle va sortir de l'adipocyte et se positionner dans les capillaires. Et dans les capillaires, elle va hydrolyser les triglycérides qui sont véhiculés par le chylomicron ou par les VLDL. Et alors, dès que l'on a hydrolysé les triglycérides, on libère l'acide gras et la cellule graisseuse, c'est une pompe acide gras. Elle a au moins trois systèmes différents pour capter des acides gras. Donc, c'est des transporteurs d'acide gras, je ne sais pas les détails. Donc, vous voyez,
la voie biblique. Alors la voie mystique.
La voie mystique, elle est facile, parce que l'adipocyte,
il est aussi le sucre. Et il a un équipement avec des transporteurs de glucose qui sortent dans l'adipocyte. Donc, autrement dit, des transporteurs d'acide gras, des transporteurs de glucose, tout est fait pour fabriquer le triglycéride. Donc, pour faire du gras, aucun problème. Hein? Il faut manger gras et sucré.
Mais les industriels y ont pensé.
Hein? Il y a tout un tas de produits que l'on vend et qui sont gras et sucrés.
Banco, ça c'est bien. Mais est-ce qu'il y a un chef d'orchestre là? Bien sûr, il y a un chef d'orchestre extraordinaire.
L'insuline.
Hein, l'insuline pancréatique, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, cette insuline?
Alors, elle fait toutes les choses sympathiques. Elle va stimuler la lipoprotéine et lipase, elle va stimuler le captage des acides gras, elle va stimuler le captage du glucose, et elle va stimuler la synthèse des triglycérides.
Donc, vous avez compris, l'insuline, c'est l'hormone de la lipogénèse, c'est l'hormone du stockage.
Donc, tous les grignoteurs passionnés qui se font des chutes à l'insuline toutes les 3 heures, dites-vous bien qu'ils auront des difficultés quand même pour perdre du poids un jour, parce qu'ils se mettent chaque fois des petits chutes pour faire du stockage. Hein, donc ça c'est une chose importante qu'il ne faut pas oublier. Il faut laisser faire les rythmes normaux et ne pas trop forcer l'insuline dans ses retranchements.
Bon, c'est tout simple, je ne rentre pas dans les détails. Ces processus, c'est intéressant, ils sont différents selon les localisations anatomiques du tissu adipeux.
Je ne rentre pas dans les détails. Par exemple, les femmes ont une activité lipoprotéine et lipase beaucoup plus importante que les hommes dans le tissu adipeux fémoral. Pour citer un exemple, je ne rentre pas dans les détails des disparités.
Deuxième chose qui est importante, ben maintenant, bien sûr, ça va être...
J'ai accumulé des triglycérides, il faut que je m'en dépasse de ces triglycérides.
Et donc là, vous voyez, il y a une chose qui est tout à fait intéressante. Dans les années, quand j'ai commencé à travailler, c'était tout simple.
La vie était une simplicité rare. On disait, l'habillage de la cellule graisseuse, c'est l'adrénaline ou la noradrénaline, hein, qui passe dans la circulation sanguine quand on fait de l'activité physique, par exemple. Et on peut augmenter l'adrénaline et la noradrénaline dans la circulation. Cette adrénaline et cette noradrénaline va se fixer sur un récepteur, ici sur la membrane, et ce récepteur, par une voie qui a été identifiée vers ces périodes-là, va stimuler la lipase hormonosensible, hein, et une lipase des monoglycérides, elle marche toute seule, il n'y a pas de problème, mais voilà. Et on va libérer les acides gras et les glycérols.
L'insuline perverse encore là, attention, l'insuline aussi, hein, vous avez dit, elle fait de la lipogénèse, et elle freine la lipolyse.
Donc, l'insuline, c'est vraiment l'hormone de l'accumulation.
Donc ça, c'était 76-76. C'est au moment où j'ai commencé avec mon équipe à travailler là-dessus. Et puis, bien sûr, là, voilà, oh, c'est l'enfer, là. On est arrivé donc vers des choses compliquées. On est arrivé vers des choses plus compliquées. En réalité, donc, on a beaucoup contribué à toutes ces découvertes, parce qu'en réalité, on a découvert ces récepteurs, on a fait plein de découvertes tout à fait passionnantes dans ce domaine. Ça a été le moment explosif. Il y avait très peu de travaux sur le tissu adipeux, et nous, et je vais vous montrer comment on a fait des découvertes. Pourquoi on a découvert tous ces systèmes de signalisation compliqués? On a trouvé une nouvelle lipase. En 2000, on a trouvé que des hormones sécrétées par le cœur, quand on fait de l'activité physique, eh bien, stimule également la vidange de la cellule graisseuse. Donc vous voyez, mobiliser les lipides, c'est extrêmement important. Hein? C'est notre survie. Il faut pouvoir mobiliser les lipides quand on fait de l'exercice. Alors, comment on est tombé sur ça? Parce que c'est toujours intéressant de savoir comment avancer les découvertes, si vous voulez bien. Vous savez, les chirurgiens plasticiens de l'hôpital me disaient toujours « Ah, le tissu est un peu fémoral, j'enlève ». Et ils enlevaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient des dermo-lipectomies. Et moi, bien sûr, j'ai eu la curiosité un jour de demander à M. Cossaguiola, que certains d'entre vous connaissent, de me donner des bouts de gras fémoraux. Et j'ai décidé donc de voir comment répondaient les cellules du tissu fémoral par rapport au tissu sous-cutané abdominal, qu'il enlevait en général en même temps aussi, ou par rapport à les tissus intra-abdominal. Et là, une surprise extraordinaire. On s'est rendu compte que ces cellules-là, elles ne répondaient pas du tout à l'adrénaline. Et bien, voilà, on comprend pourquoi. On va mourir. Hein, on ne perd pas cette graisse fémorale. Hein, les femmes le savent, c'est très dur de perdre la graisse fémorale.
Et bien sûr, parce que l'adrénaline ne stimule pas la lipolyse, elle ne stimule pas la vidange de ces cellules. Ça, ça a été la première année couverte. D'année, deux ans de suivi, il y a cinq ou six équipes qui ont confirmé le résultat. Toujours agréable pour un scientifique d'avoir des confirmations de ces résultats. Et ça a lancé une masse de travaux. Alors, comme on avait un peu d'avance, on a résolu le problème. On a compris pourquoi c'était ça. Je vous avais montré dans le schéma précédent que, dans le concept déjà, il y avait le récepteur bêta adrénergique, on le stimulait et il stimulait la lipolyse. Eh bien, figurez-vous que nous, on en a découvert un autre. On en a découvert un autre, et alors l'autre, il est tout à fait intéressant. C'est le récepteur alpha adrénergique. Celui-là, il fait exactement l'opposé du bêta adrénergique. Il freine la vidange de la cellule graisseuse. Et donc, vous voyez que là, on est tombé sur un système assez simple. Quand on est allé regarder ce qui se passait dans les tissus intra-abdominal, sous-cutané ou fémoral, eh bien, on a découvert qu'en réalité, ce fameux tissu fémoral qui ne voulait pas répondre à l'adrénaline, et bien sûr, on a pigé pourquoi, il est bourré de récepteurs prédateurs. C'est lui qui a le plus petit niveau de récepteurs stimulants. Donc, ça nous a permis une compréhension totale, si vous voulez, des mécanismes de régulation par les catécholamines des divers tissus. Je vous fais grâce, on y a passé 6 ou 7 ans, on a tout compris là, on y a passé pas mal de temps. Tout ça, c'était des travaux sur des cellules isolées, sur des biopsies, etc. Alors, on a été un peu embêtés parce qu'on nous a demandé après d'autres choses. Mais en fait, ça, c'était une observation spectaculaire. Autant vous dire, quand on a publié ça, j'ai été démarché par une quarantaine de sociétés qui avaient des molécules magiques pour bloquer ce méchant récepteur. On en parlera éventuellement dans la discussion, vous verrez que c'est assez intéressant de voir comment la science peut se débaucher ou passer les bouches. Donc voilà, première des choses. Donc ça, c'était une observation tout à fait passionnante. Donc, on a continué, mais on s'est dit, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, là, c'est les femmes, le fémoral, il y a une spécificité féminine ou autre. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, on a pris de la graisse fémorale et d'autres territoires, et on est allé un peu s'intéresser aux hommes. On a pris de la graisse des hommes, et en particulier cette fameuse graisse que nous accumulons sur notre paroi abdominale. Désespérance. La graisse qu'on accumule sur la paroi abdominale, elle a les mêmes caractéristiques que la graisse fémorale des femmes. Elle est bourrée de récepteurs alpha adrénergiques. Misère de misère. Donc vous voyez qu'il y a un équilibre clair. D'où ça nous a fait connecter vers une histoire. On a dit, mais est-ce que éventuellement ce récepteur ne serait pas lié au niveau d'hypertrophie de cellules ? Et alors là, l'hypothèse, elle a été bonne. Regardez, sinon je vous en aurais pas parlé. Mais elle a été bonne en ce sens qu'on a regardé, si vous voulez, l'expression des récepteurs en fonction du diamètre des cellules. Donc là, on a parlé de sexisme, du tissu d'homme, du tissu de femme, etc. Et on est allé regarder comme paramètre de différenciation le diamètre des cellules. Et vous voyez ce qu'on a constaté, c'est que les cellules hypertrophiques, plus votre adipocyte gonfle, plus il va sécréter les récepteurs qui freinent, et moins il va produire le récepteur qui stimule. Une spirale perverse, vous m'avez compris. Hein? Ça veut dire donc que plus on a notre système, plus on développe sa masse séquence, plus on va avoir des difficultés pour s'en défaire, puisque les cellules se verrouillent. Et ça, à un moment donné, j'ai eu tendance de mes collègues à penser que c'était de la pathologie. En réalité, c'est de la physiologie. Quand vous avez votre masse, la quantité de masse grasse qui augmente, vous ne pouvez pas mobiliser les lipides à toute vitesse comme le coureur de marathon qui a 8 kg de graisse. Quand vous avez 40 kg de graisse, si ça partait à toute vitesse cette graisse, si ça mobilisait aussi bien que chez le marathonien, vous seriez intoxiqué par les acides gras. Vous ne pourriez pas les couler. Donc ça, c'est intéressant et c'est probablement l'apparition de ce récepteur qui peut nous faire voir le système, qu'il n'est pas sympathique. En réalité, si, il est sympathique. Il est protecteur. Il vous évite de libérer de trop grandes quantités de la cérébrale. Et on en a fait une expérience clinique, dure d'ailleurs, mais on pourra discuter à la fin. Hein? Il ne faut pas parce que je vais... Donc on est arrivé à ce schéma. Pardon.
La régulation de la lipolyse, donc c'est la lipase hormonosensible, il y a trois lipases. Hein, bon, vous en manquez, ces trois lipases, hein, et la gouttelette lipidique, elle est enveloppée par une enveloppe protéique que l'on appelle la périlipide. Donc, je vous ai dit, on a un système adrénergique, donc avec des récepteurs bêta qui stimulent la production d'AMP cyclique et qui vont activer la lipolyse, avec des récepteurs alpha qui freinent la lipolyse. À l'occasion, on a découvert deux ou trois autres récepteurs. Hein, on a découvert que les neuropeptides Y, vous savez, que les terminaisons nerveuses et sympathiques libèrent des neuropeptides Y. Eh bien, on a trouvé qu'il y avait des récepteurs neuropeptides Y sur la lipolyse, qui est aussi freinateur de la lipolyse. On a trouvé qu'il y a d'autres récepteurs à l'adénosine, d'autres récepteurs au prostaglandine, qui sont aussi freinateurs. Donc, vous voyez qu'on a une complexité de régulation. Pour une cellule simplissime que j'aurais dû abandonner au bout de 6 mois, vous comprenez pourquoi je me suis trouvé avec l'équipe qui grandissait en plus en veine d'essayer de fouiller toutes ces histoires-là. Et donc, ce qui est intéressant là, je vous ai dit, c'est que l'insuline, par contre, elle va contrer cet effet. Donc, pas question de faire sécréter de l'insuline quand vous voulez mobiliser vos lipides. Quand vous allez faire de l'exercice, il est important, bien sûr, de ne pas manger des kilos de sucre en même temps. Parce que vous allez faire sécréter l'insuline et vous allez contrecarrer l'effet bénéfique que vous recherchez pour mobiliser vos lipides. Ça, c'est de la physiologie, si vous voulez. Hein. C'est tout à fait important. Alors, parallèlement à ça, comme je vous ai dit, on a découvert dans les années 2000 qu'il y a les peptides natriurétiques. Donc, ce sont des hormones qui sont sécrétées par le cœur. Découvertes dans les années 80, les peptides natriurétiques, si vous voulez, bon, ils régulent la naturèse, c'est-à-dire l'élimination par le rein du sel et de l'eau, et ils sont en même temps vasodilatateurs. Hein, quand la pression artérielle monte un peu trop, ces peptides vont temporiser la pression artérielle. Eh bien, figurez-vous que nous, on a en plus découvert qu'ils étaient en train de réguler la mobilisation des lipides, donc on a fait toute la biologie de ça. Comme c'était vraiment une découverte très originale, on a eu des galères et des galères pour le publier. Vous savez, plus la découverte est originale, plus ils se sont baissés. C'est la règle dans le monde de la science. Ils ont peur des choses trop originales. Donc ça a mis 10 ans. Maintenant, on est très heureux, c'est très reconnu, le monde de la etc. Le démarrage a été très difficile. Parce que personne ne voulait comprendre ce truc-là. Donc, parce que ça marche par un système, le GMP cyclique au lieu de l'AMP cyclique, etc. Donc, on a tout fait, là, et c'est une chose tout à fait intéressante. Donc, vous voyez que la mobilisation de la graisse, c'est sérieusement équipé. Et malgré ça, on ne prend pas. Donc, et chose intéressante, l'insuline, elle est incapable de contrecarrer cet effet-là. Donc, voilà pour un peu de biologie. Simplement, pour l'anecdote, je vous montre, parce que ça, c'était du travail très fondamental, de la pharmacologie moléculaire, des adipocytes in vitro. Hein. Mais dans les congrès, et en particulier toujours les méchants, les médecins, je me disais, mais monsieur, nous, on n'y croit pas trop à cette histoire. Hein. Il faudrait montrer que ça marche in vivo. Oui, d'accord, merci. Du coup, avec mon copain suédois, qui avait fait ce travail, on a mis au point une technique tout à fait intéressant, c'est le microbiome. Vous voyez, on a trouvé des sondes que l'on plante dans le tissu adipeux. C'est la sonde du microbiome, si vous voulez, pour schématiser, c'est une espèce de vaisseau sanguin artificiel qui est poreux, donc qui va laisser diffuser ce qu'il y a de glycérol produit par les adipocytes, qui va laisser diffuser, etc. On va avoir des échanges qui vont se faire, et éventuellement, comme c'est un double circuit, circuit entrant et circuit sortant, on va pouvoir injecter des drogues et voir ce qui se passe, etc. Vous voyez, c'est un petit dispositif tout à fait intéressant. On a commencé à installer ce truc-là, très belle histoire. Ça a marché parfaitement. On n'a pas demandé cette technique parce que c'était les neurologues qui l'avaient mise au point dans le cerveau, les gens qui allaient traquer les neuromédiateurs avaient commencé aussi avec des techniques de microdialyse et ils ont plus souffert que nous parce que nous on a vraiment eu immédiatement des résultats tout à fait intéressants. Je ne vous en montre qu'un pour vous convaincre. Et là, bien sûr, ça a changé notre vie. À partir du moment où on a montré que ça marchait physiologiquement, eh bien, regardez ici, l'impact de l'activité physique sur le tissu adipeux abdominal du maigre ou de l'obèse. Facile. On met la sonde de microdialyse dans le tissu adipeux.
on met l'obèse en question ou le maigre sur une bicyclette et on le fait travailler à 50% de la puissance maximale pendant une heure. Et on regarde le glycérol, puisqu'il y a de la lipolyse, hein, c'est acide gras et glycérol qui sortent, et on regarde le glycérol qui va sortir de la sonde de microdialyse. Donc, chez l'individu normal, quand il fait de l'exercice et il faut continuer, vous avez une jolie mobilisation des lipides. Vous voyez ici la mobilisation des lipides, le glycérol augmente. Quand on arrête l'activité, bien, au bout de 3-4 heures, on revient à la base. Et voyez immédiatement la galère du pauvre obèse. Et j'étais dans ce groupe, ça va pas arriver. Eh bien, je sais que moi qui fais pourtant pas mal d'activité physique, eh bien, ma graisse abdominale a des difficultés pour être mobilisée. Cette fameuse graisse abdominale, qu'est-ce qu'elle a? Elle est bourrée dans le transrecteur. Et alors, même quand vous faites l'activité physique, vous avez des difficultés à perdre cette graisse abdominale. Et les gens qui font du sport régulièrement le savent, cette graisse est partagée. Eh bien, écoutez, vous avez la démonstration, et ça, c'est un avis libide, irréfutable, que j'ai servi définitivement à mon épouse, qui ne me pose plus de questions, perverse sur mes régimes ou mes mauvais comportements. Et, parallèlement à ça, j'ai un ami anglais qui vient de résoudre le problème pour la graisse fémorale des femmes. Puisque vous comprenez bien que, mettant les individus sur une bicyclette pour faire de l'exercice physique, on ne pouvait pas se permettre, chez les femmes, de leur enfoncer les sondes de microdialyse dans le tissu fémoral et de les faire, leur faire perdre du vélo. Mais j'ai un collègue anglais qui a mis au point une très belle technique qui fait des différentes artério-veineuses. Donc, différentes artério-veineuses, ce qui rentre dans le tissu, ce qui ressort. Facile, si ce n'est que c'est très difficile à poser. On était allé chez lui pour essayer de faire ça, et en particulier quand on a une personne un peu replète comme cette dame, c'est très dur. N'empêche que lui, faisant ses différences artériovéneuses, il a regardé comment se faisait la mobilisation de la graisse sous adrénaline dans le tissu sous-cutané abdominal ou dans la partie donc fémorale. Et là, ils ont eu un très très beau résultat qui m'a fait bien plaisir parce qu'il confirmait tout à fait nos travaux. Regardez ce qui se passe. Chez ces individus, on perfuse de l'adrénaline. Donc, dans le tissu sous-cutané abdominal, ce que les femmes ont moins dans le récepteur dans le tissu abdominal que les hommes. Donc, mesdames, vous, la cliniquez dans le fémoral et pas dans l'abdominal. Donc, vous voyez, elles ont un tissu qui répond bien, de façon tout à fait sympathique, à l'administration de doses croissantes d'adrénaline. Donc, il y a une lipolyse. Par contre, vous voyez le tissu fémoral. Zéro réponse. Donc ça vient tout à fait confirmer les résultats, la biologie cellulaire, la pharmacologie moléculaire. Donc voilà, ça c'est de la physiologie. Donc nos tissus se mobilisent de façon très différente. Donc ce tissu-là que vous avez accumulé, finalement, il est redoutablement immobile. Alors, sans désespoir certain, mais il est immobile. Il ne va pas vous faire des méchancetés. Et c'est pour ça que l'épidémiologie montre que d'accumuler du tissu fémoral, ça peut être intéressant et bénéfique. La sécrétion hormonale, liquidée en une diapositive, parce que je vous dis, sinon on y passerait trop longtemps, et je suis un bavard, et donc il faut que je fasse gaffe. Alors, sécrétion hormonale, un tas d'hormones sont sécrétées par l'adipocyte, il y en a deux ou trois qui sont fantastiques, il y a la leptine, qui régule la prise alimentaire et qui a beaucoup d'effets, il y a l'adiponectine, qui est une hormone antidiabétique, tout à fait intéressante, qui excite beaucoup les chercheurs actuellement. Donc, vous voyez, une profusion d'hormones qui vont avoir des impacts sur l'insulinorésistance, sur l'athérome, sur la prise alimentaire, sur l'angiogénèse. L'ensemble de la biologie du tissu est régulé par des phénomènes hormonaux. Passionnant, mais c'est l'objet de notre conférence, et j'y passe très très vite. Alors, un tissu, ça vieillit. Eh oui. Hein, avec l'âge qui avance, vous avez eu le renouvellement des tissus, mais il vieillit. Et un tissu, il peut qu'il vieillit, si vous voulez, on a une perte de l'efficacité lipolytique. Ah, bien sûr, on commence à accumuler plein d'acides dans ces adipocytes, ça devient de plus en plus paresseux. On a des capacités sécrétoires qui sont altérées. Alors, il y a certaines hormones sympathiques pour la santé qui commencent à s'effondrer. Pas de chance. Hein, l'adiponectine, qui est une hormone, qui est une hormone, disons, en schématisant antidiabétique, hein, pour faire simple, eh bien, elle se casse la figure au fur et à mesure qu'on va commencer à vieillir et on va avoir l'adipocyte qui s'hypertrophie.
Bien sûr, quand la dépensité s'hyperprofite, le réseau vasculaire a un peu de difficulté pour suivre parfaitement l'hypertrophie et il y a des phénomènes d'hypoxie. Il y a des réactions inflammatoires, il y a des infiltrations de macrophages et de lymphocytes et il y a une inflammation et éventuellement de la fibrose qui s'installe. Donc vous voyez, on a une dynamique à la fois de vieillissement et d'hypertrophie du tissu adipeux qui vous amène vers des contextes pas très sympathiques. Bon, ça c'est le vieillissement de la masse grasse, on n'a pas trop le choix. Et ce qui arrive, bien sûr, c'est surtout une insulinorésistance des adipocytes. Et d'ailleurs, là, donc à ce moment-là, l'insulinorésistance des adipocytes, on dit, impeccable, si l'adipocyte est insulinorésistant, on va faire au moins du gras. Oui, c'est vrai. Mais l'insulinorésistance, éventuellement, peut créer des petits problèmes parce que si l'adipocyte ne stocke pas sa part de gras, et si vous continuez à avoir une alimentation un peu abusive, eh bien, le gras qui n'est pas stocké dans l'adipocyte, il va aller se stocker dans le muscle, il va aller se stocker dans le foie. C'est ce qu'on appelle la lipotoxicité, et ça c'est méchant, mais c'est pas sympathique. Et c'est un phénomène qui apparaît souvent avec le vieillissement, ou qui apparaît chez les obèses. Les deux ou trois dernières, je pense, parce que, hein, que je suis... Là, je passe vite. Bon, l'équilibre. Vous savez bien, ça c'est les yaka. Hein, les gens me disent, oh yaka, yaka gérer les entrées, yaka gérer les sorties. Hein, si c'était aussi simple que ça, les yaka, on aurait vu qu'on aurait bien moins de nouvelles, on aurait moins de progression de l'obésité. Donc les yaka, attention. Hein? Alors, pourquoi les yaka, pour faire attention? Premier problème, c'est les influences environnementales, les profils d'activité physique et nutritionnelle, ça je ne rentre pas dans les détails. Je vais passer très vite sur l'autre volet qui est la susceptibilité biologique, si vous voulez, c'est-à-dire la génétique ou l'épigénétique. En trois liens, parce que ça vous savez bien que c'est un domaine extrêmement intéressant et prometteur. Premièrement, il faut rappeler une chose, quelques remarques importantes. La plupart, si vous voulez, des adultes en surpoids ou obèses le sont depuis leur jeunesse, assez souvent. Hein, ils commencent à faire le sort, vous voyez, on en voit de plus en plus de jeunes obèses. Hein. Trois quarts des enfants obèses sont appelés à devenir des adultes obèses quand même, puisqu'ils se sont fait le patrimoine précocement. Et il y a eu de très belles études familiales, si vous voulez, avec des jumeaux ou des études familiales. Et les facteurs génétiques, on considère qu'ils contribuent de 30 à 70%, si vous voulez, dans les variations individuelles de l'obésité. Donc c'est pas rien. Hein. Les obésités monogéniques, vous avez entendu dans la presse, on nous dit toujours, on a découvert le gène de l'obésité. Bon, manque de chance, ils en sont maintenant au 5e siècle. C'est-à-dire, bien sûr, c'est une crétinerie. Il y a très peu d'obésités monogéniques. Et heureusement, il y a très peu d'obésités monogéniques parce qu'elles sont particulièrement redoutables. Et donc, en réalité, une grande partie des obésités sont environnementales. C'est-à-dire, c'est un patrimoine génétique pas tout à fait au point qui rencontre des conditions environnementales pas très brillantes. Donc, l'interaction gène-environnement va faire que si vous êtes affecté d'un gène de susceptibilité à l'obésité, vous allez voir qu'ils sont nombreux, eh bien, bien sûr, selon les conditions environnementales, vous êtes susceptible hein, d'aller, de glisser vers l'obésité. Donc, vous voyez que les monogéniques, c'est dérisoire, je ne sais rien. Mais je vous le montre vite, un exemple de monogénique vrai, regardez celle-là. Voilà une belle obésité monogénique, avec l'exemple d'un enfant, à 14 ans il fait 105 kg, à 17 ans il fait 160 kg. Alors là, il est affecté hein, d'une maladie monogénique extraordinaire. C'est un récepteur qui est impliqué dans la régulation de la prise alimentaire. Récepteur de la leptine, je vous ai parlé de cette fameuse hormone sécrétée par l'adipocyte qui régule la prise alimentaire. Eh bien, ce récepteur est muté. Il est dysfonctionnel. Et là, ces enfants mangent 24 heures sur 24. C'est terrible. Et donc, ils ont tout un tas, bien sûr, de pathologies autour. C'est une obésité catastrophique. Pourquoi? Parce que ce récepteur, il est muté. Donc, il n'y a pas moyen d'intervenir. On connaît une autre obésité monogénique qui est la mutation de l'hormone, de la leptine, avec des récepteurs normaux. Et là, on peut traiter, on les injecte de la leptine comme on injecte de l'insuline et on résout partiellement l'obésité. Voilà, donc les monogéniques sont quand même très, très difficiles. Simplement,
une manie splendide faite par un collègue en 1990 pour savoir quelle était la position des individus par rapport à une suralimentation. Il se posait la question, est-ce que nous sommes tous égaux face à une suralimentation? Vous le savez tous, il fallait le montrer, non, c'est tout. Vous avez tous des amis qui mangent comme des sauvages, vous êtes scandalisés parce qu'ils ne prennent pas de poids. Alors que vous qui faites cette attention, vous prenez du poids. Donc il fallait montrer ça. Et en même temps, y a-t-il une susceptibilité génétique? Alors là, il a fait un travail extraordinaire. Il avait pris 18 paires de vrais jumeaux. C'est-à-dire que normalement, ont le patrimoine, le même patrimoine génétique. Il faudra y faire attention, ça c'est en 90. Maintenant, avec le développement de l'épigénétique, les deux vrais jumeaux ne sont pas tout à fait aussi vrais. Il faut y faire attention. Enfin, quoi qu'il en soit, il prend ces individus, amenés au fin fond d'une maison au Canada, il m'avait montré, c'était fou parce qu'il fallait les gérer. Il a 1000 calories par jour supplémentaires. Il avait fait leur bilan de la prise alimentaire habituelle, 1000 calories de plus par jour. Attention, il n'avait pas fait dans la dentelle. Hein? Donc là, pendant 5 jours, et il a regardé bien sûr ce qui se passe dans chacune des paires de jumeaux. Première des choses, c'est clair, vous l'avez ici le schéma, mais regardez, il y a le jumeau A et le jumeau B, la prise de poids, elle est extrêmement différente. Vous avez des jumeaux qui ont pris 4 kilos, vous en avez qui ont pris 12 ou 13 kilos. Donc, chose qu'on savait, on est inégaux en face de la prise de poids. Hein? Mais ce qui est intéressant, vous voyez que les paires de jumeaux, alors je vous ai traqué les deux plus clairs, vous voyez que les paires de jumeaux, elles varient à peu près dans le même sens. Alors ça c'est la 6, c'est la 5, je ne les ai pas tous les points. Là donc vous voyez qu'en réalité, l'inégalité hein, constitutive, voilà, oui, on est inégaux face à la prise de poids, mais il y a une composante génétique non négligeable. Je peux vous garantir que cette étude est absolument infaisable maintenant. Parce que éthiquement, il m'a raconté que ces deux gaillards-là, ils s'étaient engagés à les ramener au poids de départ. Ça lui a pris un an et demi. Et il avait la grande trouille qu'ils reprennent du poids, parce qu'ils ont fait ces manipulations, si on a déstabilisé certaines vitamines et qu'on voulait pas faire. Et il était un peu inquiet. Du coup, maintenant, plus personne ne ferait ce type de manip. Elle est intéressante, mais n'a été faite qu'une fois. Donc, les chercheurs disent toujours, une fois, attention. Il faut une publication au moins 3 fois, hein, pour être sûr que c'est une vérité. Donc, voilà l'affaire. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses, regardez, avec les problèmes génétiques. Voilà des enfants de parents obèses versus les enfants de parents maigres. Vous voyez que dès l'âge de 4 ans, on peut déjà les différencier avec leur index de masse corporelle, on va tous les intégrer, et vous voyez qu'à 11 ans, c'est très clair. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, comment se fier à ça? C'est pas facile, hein? Alors, il faut regarder un peu les parents. Il faut regarder les grands-parents, il faut regarder les parents. S'il y a les deux parents obèses, attention, on est dans une dynamique qui est plus adulte. Donc, éventuellement, prendre des dispositions plus strictes, parce que ce n'est pas totalement irrémédiable, hein, à part de la monogénique très sévère, mais bon, il faut y faire attention. Donc, voilà un peu où on en est. Bon, après, regardez un peu l'enfer. Les gènes de susceptibilité, gènes de prédisposition à l'obésité. Actuellement, on en est à 27 gènes dans la zone du système nerveux central et de l'hypothalamus. Gènes de susceptibilité. Une trentaine dans le tissu adipeux, quelques-uns dans le muscle, etc. Donc vous voyez qu'il y a probablement un ensemble extrêmement complexe de gènes et de susceptibilité. Le problème, hein, il faut s'en défaire, il faut essayer de voir ce qui vous amène des problèmes. Dernière des choses, l'épigénétique, je vous rappelle une chose que vous savez probablement, c'est la modulation transmissible, héritable, mais transmissible, mais qui peut être réversible, de la fonction des gènes sans modifier l'ADN. Hein? Donc ça, c'est maintenant, on traque l'épigénétique partout, on j'y passe vite vite, parce que ça c'est pas, hein? Là ça c'est le schéma, et simplement C2 et on va terminer.
Le déséquilibre énergétique, un déséquilibre énergétique extrêmement discret, 125 kilocalories, hein, c'est pas grand-chose.
Eh bien, vous voyez qu'un déséquilibre de 125 calories, vous n'en avez pas conscience. Hein, c'est le petit bout de fromage du soir, le petit verre d'apéro, etc. Eh bien, ça vous amène au bout d'un an à une possibilité de se faire 6 kilos. Hein? Donc, les dérèglements, ces dérèglements pervers sont très difficiles à détecter. Hein, c'est pour ça que les entretiens avec des gens qui gèrent bien la prise alimentaire, c'est important. Alors, est-ce que c'est que l'alimentation, c'est pas sûr, parce que regardez ici, une étude épidémiologique un peu ancienne de collègues anglais, vous voyez, le boom de l'obésité en Angleterre, ça a commencé un peu vers les années 70. Vous voyez, c'est la courbe rouge, là. Augmentation de l'obésité. Ils sont allés voir s'il y avait des changements de l'apport lipidique ou de l'apport énergétique, pas du tout. Donc apparemment, l'épidémie d'obésité, vous voyez, en Angleterre, eh bien, elle est corrélée au nombre de voitures par foyer et au temps passé devant la télévision. Donc on a mis composantes d'alimentation de côté, et alors là, et c'est la terre, hein, pour terminer, et composantes génétiques de l'autre. Voilà. Autrement dit, vous voyez, 90 hommes d'âge moyen qui ont une dépense énergétique totalement différente. Il y en a qui sont à 2002, 2004, il y en a qui sont à 4000. Et la variabilité, hein, de la dépense, eh bien, c'est l'activité physique volontaire. Vous voyez que la dépense de base chez ces 90 individus, elle n'est pas tellement différente. La dépense induite par la prise alimentaire que l'on connaît bien, elle n'est pas différente du tout. Donc, on a dit ce que l'on connaît bien. Pas de secret. Hein? Il faut bouger. Et plus vous bougez, plus vous aurez les chances de retirer d'affaires, ce qui vous évitera de tomber sur ce schéma-là, c'est-à-dire de lutter pour avoir les modifications ici, alimentation, activité physique, essayer de voir, de gérer son style de vie, etc. C'est très dur sur le long terme, etc. Mais c'est pratiquement incontournable. Parce que la pharmacothérapie, et là, on discutera, je fais partie des gens qui n'y croient pas du tout, il n'y a rien de positif en pharmacothérapie sur le long terme. Et en fait, la chirurgie, vaut mieux éviter d'arriver à la chirurgie, puisque vous savez, les courts-circuits, etc., c'est dans les obésités qui dépassent un index de masse corporelle de 40. Et là, je vais faire sauter 3 dias pour que vous laissiez libre aux questions. Là, hein, on ira simplement aux questions. Voilà, des voies d'émergence, hein, en thérapie, mais c'est là ce qu'il faut penser à faire, c'est-à-dire retarder l'apparition, pallier les conséquences délétères de l'obésité. Donc, on a dit dépister les patients précocement et faire très attention en pédiatrie infantile. Hein. L'obésité s'installe précocement. Après, les pistes, moduler la prise alimentaire et la satiété, les gens maintenant pensent à moduler le fameux microbiome. Ce fameux microbiome, il y a des découvertes récentes, donc on va lui faire jouer un rôle non négligeable. Retarder l'apparition du diabète de type 2, c'est-à-dire qu'éventuellement, dès que vous avez un individu obèse, essayez de voir s'il commence à développer une insuline résistance très précocement. Ça ne se fait pas en exploration ambulatoire classique, mais on devrait détecter l'obèse avant d'avoir son diabète de type 2. Il commence à être insuline résistant 10 ans avant. Et des procédures, dès qu'on vous découvre l'insulino-résistance, l'hygiène de vie, des procédures comportementales vont vous faire réduire ceci. Enfin, hein, la chirurgie bariatrique, essayez de ne pas arriver à la chirurgie bariatrique, qui est pour des indices de masse corporelle au-delà de 40, et éventuellement, si on va là-dedans, je crois qu'on doit améliorer les conditions de prescription et de suivi de la chirurgie bariatrique. Les médecins sont en train de faire pas mal de progrès dans ce domaine. Pendant un certain temps, on avait confié ça à des chirurgiens qui étaient plutôt chirurgiens et pas tellement médecins. Et donc, autrement dit, il y a eu des problèmes, si vous voulez, de la chirurgie bariatrique. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire et vous remercier et vous donner quelques idées de lecture, si vous voulez, puisqu'il y a des choses intéressantes, en particulier avec des aspects sociologiques. Vous savez qu'à Toulouse, on a un sociologue
Jean-Pierre Poulain, qui a fait de très beaux travaux sur l'obésité. Vous savez, il y en a un autre qui était toulousain aussi, qui est dans le domaine de l'orthorexie, c'est-à-dire les gens qui sont extrêmement cadrés sur la prise et le contrôle permanent de la prise alimentaire. Donc c'est l'inverse. De... Et ensuite, vous avez le bouquin de Vigarello, qui est très intéressant. Le bouquin de Barbert, là, avec ce titre qui n'est pas fantastique en français, mais c'est en réalité une très grosse réflexion sur le consumérisme et la manipulation de tous par les techniques consuméristes. Et enfin, il y a quand même un petit bouquin de physiologie aussi, de tissu adipeux qui a été publié récemment et qui est en français, donc il peut être utile pour les gens qui veulent aller. Je vous remercie pour votre attention.